Le 2 juillet dernier, de nombreux parcs naturels régionaux étaient réunis à Bugeat pour un séminaire autour de la biodiversité et de la gestion de l'espace. Antoine Gattet, juriste et président de France Nature Environnement, était invité pour une conférence intitulée « Quel droit de la nature ?». Radio Massivière était là et vous propose de réécouter son intervention.
Bonjour à toutes et tous. Et alors, en tant que président de France Nature Environnement, merci à Philippe Brugère, à Catherine Hornebeck et à Gérard Salvia que j'ai vu tout à l'heure de l'invitation. Je suis donc FNE, tout le monde connaît. J'imagine que vous avez tous des relations avec les associations du mouvement, 6200 associations partout en France, dans des grandes fédérations régionales, 48 assos, dont des assos nationales jusqu'à Greenpeace. On va de Greenpeace à la Fédération française de naturisme au niveau de nos adhérents nationaux. Dans des naturistes, en passant par la SFEPM ou par la Société française pour le droit de l'environnement. Donc j'ai vu qu'il y avait un atelier hier sur les relations PNR, associations et collectifs d'habitants. Je ne doute pas que la conclusion est qu'il faut renforcer les liens entre les PNR et les associations environnementales en particulier. J'ai croisé votre président de Fédération de Parcs à un colloque à l'OFB là, la semaine dernière. Et vous savez que France Nature Environnement est membre du conseil d'administration de la Fédération des Parcs. Et que pendant longtemps, d'ailleurs, la Fédération des PNR était membre de France Nature Environnement. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on a uniquement des associations citoyennes. Et comme là, il y avait des élus dedans, au niveau de nos statuts, ça ne passait plus. Mais en tout cas, on a une proximité importante. Et j'espère que vous avez pris l'habitude et que vous continuez à l'apprendre de travailler avec les associations de notre mouvement, qui sont des associations reconnues d'intérêt général, FNE et d'utilité publique, etc. Voilà. J'enlève ma casquette FNE et je reviens sur ce pourquoi on m'a demandé d'être là, mes compétences juridiques, notamment sur des dossiers en Limousin que j'ai conduits pendant de nombreuses années avec le parc, pour vous parler de ce sujet qui est un sujet pas sympa, qui est le sujet « Quel droit pour la nature ?» Alors, quel droit de la nature en particulier ? C'est moi qui fais passer les diapos, c'est ça, avec les petites flèches ? Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que les droits de la nature ? Historiquement, les droits de la nature, c'est des initiatives qui sont portées au niveau international par des représentants de peuples autochtones. Historiquement, c'est la Déclaration universelle de la Terre-Mère de 2010, c'est le Tribunal international des droits de la nature en 2014, Vandana Shiva, écoféminisme, tout ça. Ça vient de la nécessité pour des populations autochtones qui ont une relation très particulière à leur environnement en tant que ressource, en tant que lieu de vie, d'être protégées, elles, en lien avec la protection des milieux et de la nature. C'est ça le cœur de ce qu'on appelle le droit de la nature à l'origine. Il y a aujourd'hui une dizaine de pays dans le monde qui déploient ces éléments-là. Donc ça va de l'Équateur à la Bolivie. Ça peut être des reconnaissances constitutionnelles ou des reconnaissances d'éléments particuliers. Je vous ai mis un peu des exemples. En Nouvelle-Zélande, en Inde, on a des monts, on a des glaciers. En Inde, on a des forêts pour l'Amazonie qui sont pour lesquelles on reconnaît, on y viendra tout à l'heure, la personnalité juridique. Et je vous ai rappelé un petit élément, c'est qu'en fait, dans le droit français, on a déjà ça, la possibilité de le faire, puisque le code qui concerne la Nouvelle-Calédonie ouvre la possibilité de reconnaître la personnalité juridique de certains éléments de l'environnement, en particulier en lien avec la question des populations autonomes. Et c'est une disposition qu'on n'a pas mis en œuvre et qui n'est pas aujourd'hui mise en œuvre. L'objectif de cette diapo, c'est surtout de vous dire que la question droit de la nature, historiquement, au niveau international et encore aujourd'hui, c'est d'abord un sujet peuple autochtone par rapport à leur environnement. C'est-à-dire que ça marche si on a une relation particulière des populations à la nature et aux ressources naturelles. Le point commun de tout ce qui s'est passé au niveau international, et notamment vous en avez entendu sans doute parler en Espagne récemment, avec une loi qui était d'origine citoyenne pour... j'ai pas mis le bon... non, si, c'est au-dessus. Ah, c'était avant. Hop, c'était avant. En Espagne, oui, une loi qui a accordé à la lagune Mar Menor des droits fondamentaux d'exister, d'évoluer, d'être protégé, restauré, entretenu, avec en plus très récemment une confirmation par la Cour constitutionnelle de la possibilité de faire ça. Donc on a des expériences un petit peu partout. La conséquence, quand on analyse un peu toutes ces expériences internationales, qu'est-ce qu'on en ressort ? On en ressort, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je continuerai à le dire, le fait que c'est d'abord un lien avec la question des populations autochtones. Et c'est très particulier, hein, le droit des populations autochtones et ces liens naturalistes-là. C'est en général fait dans des systèmes juridiques qui sont assez faibles en termes de protection de la nature, c'est-à-dire que c'est dans des pays ou des endroits où le droit de la protection de la nature est assez faible et on utilise l'entrée population autochtone pour faire de la protection de la nature. Et il y a un triple besoin qui est exprimé en général. C'est la reconnaissance des liens étroits entre humains et équilibre écologique, la reconnaissance de la valeur intrinsèque des éléments de l'environnement, et des besoins d'espace de gouvernance, c'est-à-dire d'espace de décision qui concerne ces habitats, qui intègrent les habitants. C'est les trois volets qui font qu'au niveau international, on va chercher cet instrument-là. Je vous ai mis aussi une petite remarque en disant le bilan qu'on commence à faire de ces expériences internationales n'est pas toujours très positif en réalité, puisque le fait qu'il y ait la personnalité juridique au Gange ou à certains cours d'eau n'empêche pas des destructions importantes et n'empêche pas et ne permet pas la restauration des cours d'eau. Donc c'est pas l'instrument magique aujourd'hui au niveau international. En fait, de quoi on parle ? Et c'est ça qui est un peu compliqué avec les droits de la nature, c'est qu'en fait, quand on parle des droits de la nature, on parle de deux choses. On parle de droits de la nature ou de reconnaissance de la personnalité juridique à la nature. Juridiquement, les droits de la nature, c'est la reconnaissance de la personnalité juridique à des éléments de la nature. Donc c'est une technique juridique qui fait que comme on reconnaît la personnalité juridique à une entreprise, à une association, c'est-à-dire à un groupement de personnes ou à quelque chose qui ne comporte pas forcément des personnes, on va dire, on va reconnaître la personnalité juridique à la nature. C'est ça vraiment le cœur de la notion. Quand on dit droit de la nature, moi ce qui m'embête un peu en ce moment, c'est que quand on dit il faut reconnaître les droits de la nature, c'est qu'on laisse entendre que la nature n'a pas de droit. Et ça m'embête beaucoup parce que, en tant que juriste en droit de l'environnement qui a enseigné pendant 20 ans le droit de la protection de la nature et le droit de la nature, notamment au BTS-GPN, mais aussi à la fac de droit, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant 20 ans et qu'est-ce que j'ai appris depuis 25 ans en matière de protection de la nature? Le droit de la protection de la nature existe. La nature a déjà des droits en France. Vous les connaissez, c'est tous les mécanismes que vous appliquez aujourd'hui sur le terrain. Que ça soit issu des lois de 76-95, c'est une discipline du droit de l'environnement qui existe et qui est assez forte au niveau international, européen ou français. Pourquoi est-ce que dans le débat public, on a les droits de la nature ou la personnalité juridique qui est portée par certains élus, qui est portée... Alors ça marche très bien médiatiquement, c'est-à-dire on dit il faut reconnaître des droits à la nature. Pourquoi est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'on en entend beaucoup parler ? Parce qu'on est face à un échec objectif de la protection de la nature aujourd'hui en France. Quand on regarde les objectifs qu'on s'est donnés sur la reconquête de la qualité écologique des cours d'eau, en 2000, quand on regarde les objectifs qu'on s'est donnés avec les parcs nationaux, avec les réserves naturelles, quand on regarde les objectifs qu'on s'est donnés sur la protection des espèces et qu'en face, on voit la régression continue des zones humides, la régression continue de nombre d'espèces protégées, du fait qu'on n'arrive pas à protéger les espèces, etc., etc., et les cours d'eau qui sont toujours pas en bon état écologique, on est objectivement face à un échec assez fort de la protection de la nature en France et en Europe. Face à cet échec, on a tendance à dire il faut qu'on aille chercher d'autres outils et qu'on aille chercher d'autres idées. Donc c'est pour ça que la question des droits de la nature surgit un peu. Avec en plus dedans une forme de valeur symbolique et philosophique pour nous dire il faut qu'on reconnecte, qu'on se reconnecte avec la nature, qu'on reconnaisse nos liens avec la nature. Si le droit de la nature, ce que c'est normalement censé être, c'est pas juste le renforcement de la protection de la nature, mais bien la reconnaissance de la personnalité juridique aux éléments de la nature, sur ce point-là, va se poser et continuer à se poser une question fondamentale qui est quels humains pour représenter la nature devant les tribunaux en particulier. Parce que reconnaître la personnalité juridique à la nature, ça veut dire qu'elle peut se défendre, mais vous verrez pas un héron ou un groupe de crapauds plaider devant les tribunaux. Il faut évidemment que ce soit des tuteurs humains, que ce soit des humains qui représentent la nature. Et cette question va être une question un peu centrale. En France, je vous l'ai remis quand même parce que ça répond un petit peu à où on en est et ça rappelle notamment aux personnes qui portent un petit peu les droits de la nature comme une espèce de solution miracle, ça rappelle que le droit de la nature existe déjà en France. La charte de l'environnement, qui est une charte constitutionnelle, donc dans la Constitution, on affirme déjà l'interdépendance entre les humains et la nature. Je vous ai remis les premiers considérants de la charte de l'environnement, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Toute la valeur symbolique et la reconnaissance de la connexion et de l'interdépendance homme-nature, humain-nature, c'est quelque chose qui est déjà dans la Constitution. La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Tous ces principes-là, on l'a en droit français. Et ça fonde nos droits de la protection de la nature. Donc, quelque part, ça sert à rien de rajouter... Enfin, le droit de la nature ne répond pas, répond à quelque chose qui existe déjà. Le Code de l'environnement, j'ai dit tout à l'heure, mais je vous ai remis un petit peu le détail, reconnaît des droits aux éléments de la nature du fait de leur valeur intrinsèque ou de leur valeur patrimoniale déjà. Pourquoi est-ce qu'on protège des espèces protégées ? Pourquoi est-ce qu'on protège des espèces ? On les protège parce qu'elles ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème, ou lorsque la conservation du patrimoine naturel le nécessite. On ne dit pas dans le droit qu'on protège les espèces parce que ça permet de polliniser les champs et de nous donner à manger. On reconnaît la valeur intrinsèque de l'environnement déjà dans le code de l'environnement et déjà dans nos lois. Pareil pour l'eau. L'eau est déjà un patrimoine commun. Sa protection, sa ressource est d'intérêt général dans le respect des équilibres naturels. C'est pour ça qu'on arrive à faire, notamment, et qu'on a des politiques de débit réservé pour les cours d'eau et la biodiversité, etc., etc. Pareil sur les sites Natura 2000. L'objectif de Natura 2000, c'est de maintenir l'intégrité écologique des sites. C'est ça l'objectif de Natura 2000. Donc en fait, on a déjà une reconnaissance déjà des éléments sur ça. Enfin, le préjudice écologique existe aussi. On a reconnu en 2016 le préjudice écologique. Alors en fait, on l'a reconnu, mais pas vraiment. On n'a pas reconnu le préjudice écologique pur, c'est-à-dire uniquement le préjudice lié aux atteintes à l'environnement par rapport à sa valeur intrinsèque. La définition qu'on a mise dans le Code civil sur le préjudice écologique est une définition qui intègre aussi les intérêts collectifs pour les humains issus de la disparition de la biodiversité. Mais bon, on a quand même reconnu le préjudice écologique. C'est une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l'homme de l'environnement. Mais si on accepte la fin de la phrase, on a quand même la reconnaissance aussi de l'atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes. Avec l'obligation pour toute personne responsable d'un préjudice écologique de le réparer. Donc dans le droit, j'ai envie de vous dire, tout ce que portent les tenants de la reconnaissance du droit de la nature ou de la reconnaissance de personnalité juridique à la nature existe déjà, sur le principe et sur les outils. Ça existe aussi déjà sur la question de la représentation de la nature devant le juge. On a depuis 1976 et 1995 déjà prévu dans le droit que la nature pouvait être représentée par plein de personnes. En premier lieu, et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit moi qui vous le dise, en premier lieu, les associations agréées pour la protection de l'environnement. Le système de l'agrément des associations environnementales, c'est-à-dire de leur reconnaissance d'intérêt général et de la reconnaissance qu'elles œuvrent à titre principal pour la protection de la nature, le principal effet de cet agrément, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir aller en justice, défendre la nature et représenter la nature. Et on a parlé du préjudice écologique tout à l'heure. Le préjudice écologique, on l'a intégré en 2016 dans le droit français, ça fait presque 10 ans. En 10 ans, on a eu quoi? 4-5 dossiers sur la base du préjudice écologique, parce que c'est une machine à gaz, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est hyper compliqué d'aller sur ce terrain-là. La réalité, c'est que dans les associations environnementales, à France Nature Environnement, on fait entre 250 et 450 dossiers par an sur des dossiers d'intérêt nationaux. Nos associations et son réseau de 80 juristes, dont 40 juristes salariés dans l'ensemble du territoire, font jusqu'à 1000 contentieux par an, dont du contentieux pénal, dont du contentieux civil en particulier et en priorité, qui sont des contentieux dans lesquels, qu'est-ce qu'on fait devant le tribunal? On représente la nature. On représente l'intérêt collectif de la protection de la nature, dont c'est notre objet. Donc au judiciaire, mais aussi au tribunal administratif. Quand une décision, par hasard, une route, par exemple, entre Toulouse et Castres, si on avait cette idée un peu saugrenue, est autorisée, avec des destructions environnementales importantes, qui va représenter la nature devant le juge pour faire annuler ce projet humain qui est très destructeur pour la nature, c'est encore une fois les associations environnementales. Et la loi nous a reconnu un rôle pour ça dans le Code de l'environnement. Ce qu'on sait moins, c'est que la loi a reconnu ce rôle-là pas que aux associations de protection de l'environnement. Elle l'a reconnu aussi à l'ADEME, à l'ONF, au Conservatoire du Littoral, à l'OFB, aux parcs nationaux, aux agences de l'eau, au Centre des monuments nationaux, et à l'ANDRA, je ne sais pas pourquoi l'ANDRA, pour le coup, il devait y avoir un type qui passait par là et qui a dit « on est aussi un établissement public, mettez-nous là-dedans ». Mais bon, si on accepte l'ANDRA sur lequel ça n'a pas beaucoup de sens, tous les autres peuvent représenter la nature et sont habilités par la loi à aller devant le juge quand il y a des atteintes à l'environnement ou des destructions de la nature pour faire réparer ou pour faire sanctionner les atteintes à la nature. C'est le cas aussi des PNR. La loi dit que les parcs naturels régionaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre. Et quel est, parmi les intérêts que les PNR ont pour objet de défendre, il y a quoi? Il y a la protection de la nature. Les collectivités territoriales aussi peuvent éventuellement intervenir par rapport à un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences. Et c'est assez facile de dire que quand on a un préjudice sur le territoire, c'est un préjudice qui peut être en lien avec des questions de protection de la nature. Pour la petite histoire, le fameux dossier de l'ERICA, sur lequel il y a eu la jurisprudence sur le préjudice écologique, qui a été plaidée par Corinne Lepage. Corinne Lepage, elle fonde son action sur quoi? Elle fonde son action sur ça. Elle va chercher le tribunal en disant « je suis une collectivité, la marée noire a porté atteinte à mon territoire, et en particulier aux espèces qui forment la base de mes activités touristiques et tout ça. Et c'est le juge qui lui a dit « Oui, oui, vous avez un préjudice, et je vais l'appeler préjudice écologique. » Qu'en fait, on a déjà aujourd'hui dans le droit la reconnaissance de la nature, la reconnaissance du préjudice écologique, la reconnaissance du préjudice, même si on ne l'appelle pas écologique, et la possibilité pour pas mal de monde d'aller représenter la nature, et on le fait. Autre élément, la gouvernance existe déjà aussi. Parce que quand on fait beaucoup d'expérimentations en ce moment, notamment sur le Parlement de la Loire, des choses comme ça, on finit par dire « on va faire un truc et puis on va faire un Parlement qui regroupe l'ensemble des acteurs et tout ça ». Alors quand on est juriste ou quand on est comme vous et moi dans le droit de l'environnement et dans la protection de la nature depuis de nombreuses années, on se dit, moi quand on m'a dit c'est super le Parlement de la Loire, regarde on a fait un truc sur les droits de la Loire et puis on aboutit à un Parlement de la Loire. Je dis ouais t'es gentil mais il y a déjà un comité de bassin, ça servira à ça, il y a déjà des commissions locales de l'eau dans lesquelles il y a tous les acteurs, il y a aussi la nature qui est représentée en particulier par la protection de la nature, tout ça existe déjà. Il y a déjà des établissements publics qui ont obligé la préservation, la conservation de la nature, il y a l'OFB, etc. etc. Donc en fait... Quelque part, tout est censé exister. Le vrai problème, c'est pas tant est-ce qu'on se rajoute un élément de protection des droits humains ou de reconnaissance de la personnalité. La vraie solution, c'est pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Je pense que vous le savez, mais moi je le sais encore plus que vous. Pourquoi ça marche pas ? Parce que on manque de moyens pour les associations environnementales en particulier, mais pour l'ensemble des services de protection de la nature aussi. On a beaucoup parlé de l'OFB récemment, qui s'en est pris plein la tronche, alors que l'OFB a dit « mais regardez les chiffres, je contrôle un agriculteur a une chance d'être contrôlé tous les 10 ans sur le territoire. On a un agent de l'OFB pour 200 km² sur le territoire aujourd'hui en termes de contrôle, et vous savez comme moi les dossiers qu'on a et qui sont bloqués faute de moyens. Vous connaissez comme moi les manques de moyens de la justice en général, et donc des manques de moyens sur la justice environnementale. Vous connaissez comme moi les régressions importantes qu'on est en train de se prendre sur les processus de démocratie environnementale, d'enquête publique, de débat public et tout ça, sur lequel depuis quelques années on a une régression très importante. Donc en fait, le vrai problème, c'est le fait que les instruments actuels qui existent dans le droit, et on a tout l'arsenal pour faire quelque chose, n'est juste pas appliqué suffisamment, et n'est pas reconnu suffisamment en particulier par l'État, comme étant des instruments de mise en œuvre et de protection de la nature. Et pour finir, un autre élément sur lequel j'insiste, c'est pour ça que moi, nous, à FNE, on n'est pas des promoteurs particulièrement forts de la question de la reconnaissance de la personnalité juridique à la nature. On est des promoteurs très forts de la reconnaissance des droits de la nature et surtout de la mise en œuvre des droits de la nature existants, mais on n'est pas promoteurs de la reconnaissance de la personnalité juridique de la nature. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire, c'est très simple, hein. C'est hyper simple. Enfin, j'entends des fois dire « c'est très technique », mais c'est absolument pas technique. Vous faites une loi, vous dites « des éléments peuvent avoir la personnalité juridique », et puis après vous renvoyez à une décision territoriale préfectorale le fait de dire « telle montagne ou tel espace a la personnalité juridique ». Ça, c'est franchement hyper simple. Le vrai problème, c'est que quand on va faire ça, il va falloir derrière des années pour que ça soit mis en œuvre, pour que ça soit rendu opérationnel par des textes, par des décrets, qu'on décide qui concrètement va représenter la nature par rapport à ça, que les juges soient saisis, que la jurisprudence se mette en place. Regardez pour le préjudice écologique, ça fait 10 ans, on commence qu'aujourd'hui à avoir les premiers dossiers en cours d'appel ou en cours de cassation pour définir comment on calcule et comment ça marche vraiment. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que face à l'urgence écologique, malheureusement, on n'a pas 10 ans de plus ou 15 ans de plus pour régler le problème de l'érosion de la biodiversité. Pourquoi pas ? Enfin, franchement, moi, voilà. Pour nous, ce n'est pas la solution miracle, et parfois c'est un petit peu trop présenté comme la solution miracle, mais quelque part, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons-y, faisons ça en plus. Mais en tout cas, ne nous disons pas que ça va être la solution miracle. Et pour finir, puisque j'ai déjà un peu fait la conclusion, pour moi, le volet droit de la nature, c'est intéressant parce que les médias s'en emparent et parce que les politiques s'en emparent, parce que c'est un message simple qui a tendance à vous dire... La nature dégringole, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le droit, il faut lui reconnaître des droits. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître que la nature a des droits et qu'on ne les protège pas correctement et qu'on ne les rend pas effectifs et qu'on ne les rend pas opposables, et c'est un peu plus complexe. Ok, disons qu'il y a un problème sur le droit de la nature. Profitons de cet engouement pour les droits de la nature pour faire des démarches pédagogiques, et c'est le cas, c'est ce qui est fait, c'est ce qui va nous être présenté aussi par Marjorie tout à l'heure. Mettons l'étiquette droit de la nature dessus pour faire des démarches pédagogiques, pour aller chercher les associations, pour aller chercher les habitants, pour aller chercher les citoyennes et les citoyens du territoire, pour leur dire, on se met tout autour de la table, on fait comme si on était vraiment une population autochtone, on se reconnecte avec la nature en se disant, mais en fait, on en a besoin de notre forêt, on en a besoin de nos rivières, et donc on fait des opérations pédagogiques autour de ça pour aller chercher les gens. Pourquoi pas? Et c'est d'ailleurs uniquement ce qui est fait. Le Parlement de la Loire, tous ces trucs-là, même à Paris, sur la Seine, ça sert à ça. Par contre, la personnalité juridique des éléments de la nature, pour nous, c'est pas une solution. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, la défense des droits de la nature ne doit pas faire oublier le fait que la nature a déjà des droits et que le problème principal, c'est l'absence d'effectivité de ces droits, et on est bien placés, vous et moi, pour le savoir. Les parcs naturels régionaux sont déjà reconnus comme pouvant représenter la nature devant le tribunal, et ça, c'est un élément de la solution aussi. Moi, j'arrête pas de le dire souvent dès que je peux, notamment à la Fédération des PNR, mais allez-y, quoi. Allez-y, enfin, jouez-la, cette prérogative. Vous êtes sur un PNR, vous avez une destruction de l'environnement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas au tribunal? Enfin, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais moi j'y suis au tribunal et je ne vous vois pas. Je me dis, mais le PNR, il est où? Enfin, alors il faut que ça soit un peu énorme pour qu'on vous voit arriver, mais ça ne devrait pas être un peu énorme. Il y a une infraction environnementale sur votre territoire, vous devriez systématiquement être au tribunal avec les associations environnementales, par nature. Vous défendez la protection de la nature, elle a été bafouée, ça porte atteinte à votre objet statutaire, à votre objet public, vous devriez être avec nous et vous devriez représenter vous aussi la nature. Je fais exprès de vous titiller un peu, mais... Et dernier point, qui est quand même la conclusion principale pour moi, le vrai sujet de tout ça, c'est la question de la prise conscience de l'interdépendance humain-nature, non pas sa reconnaissance juridique, parce que ça, existe, mais le fait de le vivre. Tout ça, le problème, nos problèmes de protection de la nature en France aujourd'hui, ils viennent de quoi? Ils viennent du fait que les gens ne sont plus dans la nature. Alors nous, les associations environnementales, on est les citoyennes et les citoyens qui sommes encore dans la nature, qui la connaissons, mais autour de nous, on le voit, les jeunes avec les écrans, les machins et tout ça, les rythmes de travail, les gens ne sont plus dans la nature. Avant, il y avait des pêcheurs, il y avait des chasseurs, tout le monde était un peu pêcheur, un peu chasseur, tout le monde allait se balader et tout ça, et encore, vous êtes sur des PNR, donc vous êtes dans des zones rurales sur lesquelles il y a des gens, un peu plus de gens dehors, mais je pense qu'un des secrets de ce problème-là sur la question des droits de la nature, c'est d'abord que les gens se reconnectent au vivant, comprennent le vivant, comprennent leur interdépendance au vivant, et le fassent non pas à l'occasion de canicules, comme on vient de le faire là pendant 3 jours, dans lequel ça y est, tout le monde découvre que quand il fait chaud, on a du mal à vivre, et que s'il faisait un peu moins chaud, on aurait un peu plus de ça irait mieux, mais de le faire tout au long de l'année, dans le cadre d'éléments pédagogiques et de liens et d'expériences pédagogiques. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long.